qui est intéressant, mais c'est très riche, donc on va regarder ça d'abord. Donc au tout début de la paracha, Hachem donne l'ordre à Moshe Rabbeinu. Il lui donne un ordre qui n'est comparable à aucun des ordres qu'il lui a jamais donné. Parce que ici, Hachem lui dit Shlach Lecha. Un assim. Envoie, littéralement, envoie pour toi. C'est-à-dire que Hachem donne il a Moshe d'envoyer, mais il lui dit en même temps que, en fait, c'est ton initiative, c'est... Moi, je te dis pas d'envoyer. Alors, il dit Shlach, mais en fait, je te permets. Bon, c'est bien comme ça qu'il faut l'entendre. Alors, on a tout de regarder tout plus que dit Rashi. Rashi, évidemment, il pose la première, enfin, Rashi ramène toujours d'autres hasards, je dis Rashi, c'est dans Rashi, mais c'est pas obligatoirement Rashi qui le dit de lui-même. Rashi demande pourquoi est-ce que la paracha des Meraglim est juxtaposée avec la paracha de Lashon Hara qu'on dit Aaron et Myriam sur Moshe Rabbeinu. Une paracha de Lashon Hara, et on va présenter comme. Vous savez, la démarche de Meraglim, ils vont dire du Lashon Hara, Diba, vont dire de Lashon Hara sur la terre d'Israël. Et donc la question se pose, enfin, on veut montrer en juxtaposant les deux, c'est qu'en réalité, l'Ebnei Israël qui, enfin d'abord les Meraglim eux-mêmes, puis ensuite, d'abord les Meraglim eux-mêmes, ils auraient dû tirer une leçon de ce qui nous est rapporté, donc de ce qui s'est passé juste avant. Bon. Et donc ce Lashon Hara, et tout en intégrant aussi le fait que le Lashon Hara de Myriam et Aaron sur Moshe n'était pas un Lashon Hara simplement pour dire du mal de Moshe. C'était un Lashon Hara qui résultait d'une démarche d'empathie avec la femme de Moshe Rabbeinu. Ils l'ont vu, ils l'ont compris, elle leur a dit, bon, peu importe, qu'elle souffrait de ce que Moshe Rabbeinu se soit séparé d'elle. Et elle, donc Myriam et Aaron, leur erreur, c'est d'avoir comparé leur prophétie à la prophétie de Moshe Rabbeinu, alors qu'elles n'ont rien en commun. C'est déjà, il y a toute une ambiguïté de présenter la prophétie de Moshe Rabbeinu en utilisant le même mot pratiquement pour cette prophétie-là et la prophétie de tous les autres. C'est, alors que ça a quasiment rien à voir. Mais bon, Myriam et Aaron n'ont pas voulu dire du mal de Moshe, ils ont voulu mettre Moshe en garde sur le fait qu'il faisait souffrir son Sipora, il faisait souffrir sa femme. Et vraiment, en le faisant, ils ont dit du Lashon Hara de Moshe. Donc même un Lashon Hara qui est simplement une forme de retombée d'une bonne intention, a priori. Donc quelle que soit l'excuse que les Meraglim pouvaient se donner, ils s'en sont donné des excuses, on en parlera, pour dire du Lashon Hara de l'Eretz Israël, c'est un Lashon Hara quand même, mais ils auraient dû tirer la leçon que c'est néanmoins interdit. Maintenant, effectivement, est-ce que le Lashon Hara sur une personne est comparable au Lashon Hara sur une terre? Alors sur une terre, pas, mais sur la terre d'Israël, peut-être qu'effectivement, dans la mesure où Hachem avait déjà annoncé que cette terre était bonne, donc quelque part il y a une dimension, c'est, on parle de la terre, mais en fond c'est comme si le Lashon Hara portait aussi sur Hachem. On verra bien que dans les arguments les maraglim, ils vont aussi glisser sur dire des choses sur Hachem qui sont on peut pas dire, quoi, évidemment. Donc la première chose, c'est faire remarquer que au fond, on va parler d'une faute énorme de la part des maraglim, parce que la faute est absolument énorme, puisqu'elle va avoir des conséquences faramineuses, quoi, si vous voulez, va changer complètement notre toute notre histoire, tout notre rapport avec la terre d'Israël, tout le rapport du clan d'Israël avec Hachem, le rapport avec Moshe Rabbeinu, tout va être chamboulé à cause de ces, à part de ce lachonara, enfin cette démarche des explorateurs, de ces meraglimes. Donc voilà, c'est quelque chose d'absolument énorme. Il y a quand même pour dire que c'est pas qu'ils se sont trompés sans avoir eu, sans avoir été un peu avertis. Ils ont été un peu avertis par ce qui est arrivé à Aaron et Miriam. Bon, ça c'est une première chose. Et ensuite, il y a ce Dach de Ra. On voit pourquoi. Dans le stone, ils ont traduit angoisse sur ton initiative. Mais le kha, c'est le même le kha que dans l'être kha d'Abraham Avinu. Comme si c'était quelque chose qui est vraiment pour toi, pour Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu qui en a envie, c'est quoi ça? Alors, dans notre texte à nous, les choses sont pas tellement explicitées. Mais comme vous savez, dans le Sefer Dvarim, le but, mon cher ami, va rappeler l'épisode de Meraglim, et là-bas, c'est plus explicite. Mais donc, Rashi ici ramène que le Ra, car le Ra donc, les Da'atra, c'est d'après ton Da'at à toi, c'est toi qui va mesurer, qui va décider si oui ou non tu les envoies. Sha, ben le Ra. C'est-à-dire, Ani, Eni, Metsavé, le Ra. Moi, je ne t'ordonne pas de le faire. Hachem dit, moi, je ne donne pas d'ordre, je ne te donne pas d'ordre d'envoyer des explorateurs. Tout ce qu'il sait, là. Si tu veux, je te permets d'envoyer. Je ne comprends pas ce que ça veut dire tout à coup. Comment c'est incompréhensible? Alors, regardons un petit peu la suite, on va voir, ça ne deviendra pas plus compréhensible, mais derrière, on va quand même regarder la suite. Et puis, chez Daou Israël, Véamro, le peuple s'est, on va noter, on voit, ils se sont rassemblés contre Moshe Rabbeinu, contre lui, c'est-à-dire, que Moshe Rabbeinu n'avait pas l'intention d'envoyer des éventes des Maraglim. Hachem avait dit que la terre était bonne. C'était bon, terminé. Le peuple se rassemble, et ils disent, Mishlecha Anashim Lefanenu, envoyons des gens devant nous. Donc, envoyons des éclaireurs, envoyons des explorateurs. Comment chez Neymar, et d'où est-ce qu'on sait que, Rashi dit, d'où est-ce que je dis, je tire ce que je suis en train de vous dire, c'est simplement marqué dans le Sefer Dvarim, comme ça. C'est marqué, Vatikrevun Elai Kulchem. Vous êtes approchés de moi, Kulchem, vous tous. Et là-bas, Rashi m'a expliqué que la démarche était déjà pas très bonne parce que les Bnei Israël, normalement, quand on s'adressait à Moshe Rabbeinu, ils venaient, les Bnei Israël venaient en, par strat, si vous voulez, ils venaient tous les gens, les anciens venaient d'abord, puis ensuite les autres, etc. Et là, Kulchem, ça veut dire, Beir Rouvia, vous êtes venus comme ça, sans respecter les règles de distanciation familière, etc. Il n'y avait pas un mètre entre chacun, donc vous êtes venu comme, un peu comme ça dans le désordre. Et du coup, ils ont demandé quelque chose à Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu ne savait pas répondre. Alors Nimla, la Shkina, Moshe Rabbeinu, il a interrogé la Shkina. Il interroge Hachem. Et coup, on ne comprend rien du tout. C'est ce que veut dire Hachem. Moshe Rabbeinu interroge Hachem, Amar, Hachem lui répond. Ani Amarti Lahem, Shitova. Comme on voit dans le Pasouk, Ale Etrem, mais on est Mitzrayim. Je vais vous faire monter de la pauvreté ou de, ouais, de la pauvreté ou de la pauvre Égypte au sens de la situation égyptienne qui était absolument détestable. Et voilà, avec cette partie de la phrase, on pourrait dire que Hachem lui a répondu non. Bon, je l'aurais dit, moi, qu'elle était bonne, donc il n'y a absolument aucune raison d'envoyer des explorateurs. J'ai dit, dit Hachem, c'était bon. Alors Hachem dit, au lieu de s'en tenir là, Hachem dit, Chayem, Rappelori, ça veut dire sincèrement, espèce de Kadosh qui annonce. Alors regardez ce qu'Hachem dit. Shani noten nahem makom lit'ot. Le divrei hamraglim. Le ma'an, loi rachua. C'est un midrash Tanhuma et la Gemara que Rashi rapporte. C'est terrible ce qu'il dit là. Donc Hachem fait un serment, il dit voilà, je vais leur donner un lieu de se tromper dans les paroles des explorateurs afin qu'ils n'héritent pas de cette terre. Alors, d'abord, c'est intéressant, c'est, on a l'impression que ce qui est donné, c'est donné aux Bnei Israël. Les Bnei Israël vont se tromper dans les paroles des explorateurs. Parce que c'est une couchia sur laquelle on va revenir, c'est un cri à part qui fait remarquer que ils n'ont dit que la vérité, les explorateurs. Quand ils font le rapport de ce qu'ils ont vu, ils disent ce qu'ils ont vu. C'est la vérité, c'est, pour eux c'est la vérité. On a regardé avec nos yeux, on a jeté, on a regardé, et voilà ce qu'on a vu, et ils font le rapport de ce qu'ils ont vu. Ils n'ont pas. Il y a, dans le rapport de ce qu'ils ont vu, ils ont dit ce qu'ils ont vu. Et là, on a l'impression que le texte dit les Bnei Israël, dans les paroles des Meraglim, ils vont pouvoir se tromper. Et pourquoi est-ce que je leur donne cette possibilité de se tromper? Alors, du coup, c'est les Ma'an. Pour que. Du coup, c'est affirmatif. Du coup, c'est pas. Hein. Je leur donne une possibilité de se tromper afin qu'ils n'héritent pas de la terre. Vous voyez, donc, c'est pas simplement qu'Hachem a donné une possibilité de se tromper, comme si Hachem avait déjà décidé que, bon, okay, avec cette, s'ils font cette démarche-là, ils vont se tromper et du coup, ils vont pas hériter, ils vont mal interpréter ce que disent les Meraglim, ou bien les Meraglim eux-mêmes, dans l'interprétation, ils vont se tromper, pas dans ce qu'ils ont vu, mais dans l'interprétation de ce qu'ils ont vu, on va voir un peu, on va voir même un peu plus, afin qu'ils n'héritent pas cette terre. Ok. Ben, voilà, avec tout ça, on comprend pas pourquoi mon cher Abel, avec tout ça, il les envoie. Bon, Hachem lui annonce, ça va mal tourner s'ils vont. Et il les envoie quand même. C'est difficile de comprendre pourquoi Moshe Rabbeinu les a envoyés. Mais une fois qu'Hachem a dit cela, alors ça continue d'être un peu étonnant. Dans le troisième verset, Vaishlach Otam Moshe, Mimidbar Paran, donc Moshe Rabbeinu les a envoyés, ces explorateurs. Ils sont partis du désert de Paran. Aoupi Hachem. Qui est-ce qu'ils ont, ces gens qui vont être envoyés ont été choisis par Hachem. Hachem, après avoir dit, moi, je pense qu'ils ne faudrait pas envoyer, si tu les envoies, alors du coup, là, du coup, Hachem, il recommence, comme si, enfin, il choisit les choses comme s'il avait été complètement d'accord avec la démarche. C'est lui qui va choisir ces gens-là. Il les choisit. Kol Anashim Shebamikra et Anashim Chashibut. Ici, le mot Anashim, dans la Torah, ça veut dire que les gens qui ont été choisis sont des gens importants, des gens de mérite, en fait. Et on précise, Verota Sha'a, au moment où ils sont choisis, ces explorateurs, Kshéri Mayo. Ils étaient complètement cachés. Donc, ça veut dire que, au départ, ils sont cachés, à l'arrivée, ils ne le sont pas, donc il y a eu quelque chose durant l'exploration qui a fait qu'ils ne sont, qu'ils n'étaient plus cachés. Alors, on nous annonce le, voilà la liste de ceux qui ont été choisis. Et le matin, Ephraïm, en verset 7, 8, pour la tribu d'Ephraïm, celui qui a été choisi, c'est quelqu'un qui s'appelle Hoshéa ben Noun. Vous ne le connaissez peut-être pas, mais si vous voulez bien descendre jusqu'au verset 16, à la fin du verset, le verset dit « Elesh Mota Anashim » Voici donc les noms de ces gens que Moshe Rabbeinu a envoyé la tour et à Arez pour espionner, pour explorer la terre. Taïka et tout à coup, bon voilà, c'est la liste. Et là, un petit rajout. Taïka Moshe le Roshéa Binoun Yoshua. Voilà, celui-là vous le connaissez. Moshe Rabbeinu, il a changé le nom de Roshéa Binoun. Hoshéa, c'est un nom tout à fait respectable. Il y a un des Nabiim, un de ce qu'on appelle les, un des 12 petits prophètes, comme on dit. Il s'appelle Hoshéa, en français on l'appelle Osée. D'accord? Et, bon, c'est un nom, mais Moshe Rabbeinu change son nom. Alors, dans le changement de nom de Hoshéa à Yoshua, essentiellement, ça va se prononcer différemment, mais dans la graphie, ce qui change, c'est que il y a un Yud en plus. Le Yud au début de Hoshéa, avant le mot Hoshéa, il y a un Yud avant. Et du coup, ça va pouvoir se lire Yoshua. Et Yoshua, ça a un sens. Quand ça parle, c'est-à-dire que il sauvera, il te sauvera. Et puis en plus, comme vous voyez, vous avez les trois premières lettres du tétragramme dans Yoshua. Yud et Vav. D'accord? Il y a trois des quatre lettres qui composent le nom divin, comme c'est le cas dans Yehuda, par exemple. Donc, quelque part, Moshe Rabbeinu, il a super protégé Yoshua, et on a moins expliqué qu'il a donné ce nom-là. Et d'abord, Rachidi Nitpalel Alav. Ka Yoshiacha Nasat Nuragli. Donc, le nom de Yoshua devient une prière. Hachem te protège du complot des Meraglim. Qu'est-ce que ça veut dire? Moshe Rabbeinu savait qu'il va y avoir un complot des Meraglim, mais il savait tout ça, il les a envoyés au Caspi alors. On n'est pas obligé de dire comme ça, on peut dire. Ce que dit le verset, le mot, que Ka Yoshiacha, Moshe Rabbeinu sait bien que, puisque Hachem dit qu'on ne devrait pas les envoyer, et qu'Hachem a dit, je vais même leur donner un moyen de se casser de se tromper, même si on dit comme ça seulement. Alors il sait qu'il y a un problème. Donc, parce que Moshe Rabbeinu sait que Yoshua sera son successeur, parce que Yoshua va devoir jouer un rôle dans le plan d'Israël, il faut le protéger. Donc il le protège et il dit, Hachem te protège. Il n'a pas dit quel est le problème. Nous, après coup, quand on sait ce qui s'était passé, la protection était une protection qui aura servi, en particulier, peut-être que son nom va le protéger sur d'autres plans aussi, mais en particulier, ça va le protéger par rapport au complot des Meraglim. Alors, comme vous le savez, on verra, mais je vous le dis tout de suite, il va y avoir un complot des Mereglim. Donc, quelque part, je vous ai dit qu'entre le moment où ils ont été choisis et le moment où ils vont faire leur rapport, ça a mal, ils ont dérivé, quoi, quelque part. Ils sont devenus non cachères, ils étaient cachères, ils ne le sont plus. Et on a l'impression que, quand on dit qu'ils ne le sont plus, ça veut dire qu'ils ne le sont plus parce qu'il y a un complot. Il faut un complot. Le complot, on va voir ce que c'est, de quel complot il s'agit réellement. Alors, ce qu'on va faire, c'est... Bon, alors... D'abord, on va regarder un petit peu ce qui va se passer. Donc, les Meraglim s'en vont. On nous donne le chemin, les Meraglim, et ils reviennent. Et ils font, évidemment, un rapport à Moshe Rabbeinu, mais ils font ce rapport... publiquement. Alors, vous allez au verset 25. Yashuvu mitor haaretz. Et ils sont revenus d'avoir exploré la terre. Dikes arbaim yom, au bout de 40 jours. Donc, la promenade a duré 40 jours. Bon, c'est probablement pas pour rien que c'est 40 jours, parce que 40 jours, c'est toujours, par exemple, c'est le temps de qu'il y a entre la conception et le moment où la Neshama elle vient dans le corps humain, en quelque sorte. C'est le moment où on passe d'un corps humain, où on passe d'un amas de cellules, si vous voulez, à un embryon. Donc c'est un temps pour que les choses changent d'état, en quelque sorte. C'est un temps absolument nécessaire pour un mûrissement, en tout cas. Et quand ça va être 40 ans, on va bien voir que 40 ans, c'est le temps que, en principe, quelqu'un va mettre pour arriver à comprendre parfaitement son maître. Ça peut durer 40 ans. Parce que les Israélites comprennent vraiment ce que Moshe Rabbeinu leur disait, ça aura duré 40 ans. En 40, c'est un chiffre particulier. Des jours, des années, ou... Vayilchou, ils sont allés, Vayavrou, El Moshe, Vel Aaron. Donc ils sont revenus, et ils vont. Alors c'est un peu étonnant. Qu'est-ce que c'est que ce verset, le verset 26 dit, Vayilchou, ils sont allés, Vayavrou, ils sont arrivés vers Moshe et Aaron. Alors Rashi, sur le pasuk. Rashi dit, Mahou Vayelchou. Ils sont allés, nous deux, ils sont allés, bien sûr. Ils sont allés vers, ils sont arrivés chez Moshe Rabbeinu, c'est qu'ils sont allés. Alors ça veut dire, Leakish Alichatan Leviatan. On veut comparer le fait d'aller vers et le fait d'être arrivé. Vayelchou, de la même manière qu'ils sont arrivés, et on sait, qui va se passer à l'arrivée. Il y avait déjà dans la démarche au sens physique, le moment où ils vont vers Moshe, ils vont déjà dans l'esprit dans lequel ils seront quand ils vont parler, quand ils seront arrivés. C'est-à-dire, Na biatam reisa ra, de la même manière que quand ils sont chez Moshe, biatam, quand ils sont arrivés, c'est Eitzara, c'est le complot, en fait. Apparichatan de Eitzara. Déjà là, toute la démarche est mauvaise. C'est pas que tout à coup, les circonstances, je sais pas quoi, il y a une grande émotion, ou je sais pas quelque chose, non. Il y a vraiment une démarche pour aller dire de mauvaises choses, pour aller dire du mal de l'Israël. Ils viennent aussi ben kol adat ben Israël. Et ils vont parler à toute la communauté témoignant de ben Israël. Donc c'est absolument public. On est dans le désert Paran, Kadesha, Kadesh, c'est-à-dire suivre au terme d'avar, et ils viennent leur faire un rapport, disons, ou un rapport compte rendu de ces 40 jours d'exploration. C'est aussi un rapport qu'ils font devant tout le monde. Ils ne veulent pas seulement faire le rapport à Moshe et à Aaron, mais aussi un rapport au peuple, très démocratique, devant tout le monde. Vayaroum et Pri Haaretz. Ils leur ont montré le fruit d'Eretz Israël. Alors on avait vu dans le... On n'a pas vu. Entre temps, on a expliqué que ils ont ramené des fruits extraordinaires, des fruits énormes. On n'a jamais plus par la suite entendu parler de fruits de cette taille-là, produits par cette terre de Canaan quand les pays d'Israël sont entrés. Alors, est-ce que c'était l'état de Eretz Canaan à moins 40 ans avant qu'il n'y entre? Et que ça s'est dégradé pendant les 40 ans durant lesquels nous on s'est tourné dans le désert. Bon, ça veut dire que la terre, finalement, n'était plus aussi riche, aussi extraordinaire. Bon. Ou bien alors, est-ce que c'était simplement pour la démonstration que Hachem voulait leur montrer ce que peut donner cette terre d'Eretz Israël? Alors voilà, il montre ces fruits. Et puis, Vaïsakou, l'or, et ils lui font un récit. Alors, c'est qui c'est à qui qu'ils font ce récit-là? Qui est c'est Moshe? Ou bien est-ce que c'est tout le peuple? Comme c'est marqué, c'est quasiment un singulier, mais est-ce que ça peut désigner ou le peuple tout entier, ou bien Moshe? Le problème c'est l'ensemble des Bnei Israël, peut-être. En tout cas, ils font un rapport a priori à Moshe. Bayongo, et ils disent, Banuela Aret Sacher, Shlachtan, ou non, ils s'adressent à Moshe. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. Les Lamzarat Khalavut Vashi. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. Et ça donne, voilà un échantillon des fruits. Donc, extraordinaire. Voilà. Donc, jusque-là, ce rapport-là, il est parfait. C'est, voilà ce qu'on a vu. Donc, le pays est extraordinaire et il produit des fruits extraordinaires. Rashi dit, comme d'avoir Sheker, j'ai un homme rimbo, ça t'aimait, le trilato, en taillero. Cette vérité qu'ils ont énoncée ici, dit Rashi, c'est parce que quand on veut dire un mensonge, il faut toujours lui ajouter un petit peu de vérité pour que ça soit crédible. Et si on n'ajoute pas cette vérité, ça va s'effondrer, le mensonge ne passera pas. Donc quelque part, Rachid explique déjà, même cette partie-là qui a l'air positive, comme étant déjà constitutive du mensonge. Donc c'est ici un aspect d'a priori, c'est-à-dire au moment où ils parlent, disons que on ne peut pas savoir. Au moment où ils font ce rapport-là, ils disent une vérité, seulement que après on va comprendre que cette vérité-là qui a été énoncée et qui ne va pas dans le sens de ce que eux voudraient, alors c'était simplement pour faire passer la pilule, pour que le reste passe. En tout cas, ils disent FS. FS, ça veut dire zéro. FS, ça veut dire, mais tout ça, ça vaut rien. Ça veut dire, non, c'est pourquoi ça sert à rien. Tout ça, parce que, qui az aham ayoshel baaretz. Parce que ce peuple-là, dans ce pays-là, ils sont très 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 puissants. Et puis les villes sont fortifiées, terriblement fortifiées. On a vu aussi là-bas des enfants des géants, etc. Et puis, pour compléter le tableau, au sud, il y a Amalek, et aussi les Rithéens, les Hébouséens, les Moréens, dans les montagnes, les Cananéens, au bord de la mer, et au bord du Jourdain. Voilà, donc ça veut dire, on y arrive pas. Bon, c'est impossible. C'est-à-dire, le pays est extraordinaire, mais il n'est pas à notre portée. Nous, on ne pourra pas l'avoir. Et ça, c'est, on ne sait pas, on ne dit pas qui parle, mais c'est au nom de 10 des 12 explorateurs. C'est évidemment pas au nom de Yoshua, parce que les explorateurs, Yoshua, c'est le chouchou de Moshe, on l'a pas mis dans la combine, évidemment, parce que évidemment, lui, on n'allait pas pouvoir le prendre avec, il pouvait pas le prendre avec eux. Ça aurait pas marché. Seulement, il y avait un deuxième qui s'appelle Caleb. Caleb, c'était un personnage, je dis la presse, il gagne à être connu. Parce que vous le connaissez peut-être un petit peu, mais on le connaît pas tellement. Mais Caleb, c'est Marie Myriam. C'est le père de Hur qui a été assassiné parce qu'il voulait s'opposer à l'idolâtrie, enfin au veau d'or. C'est un bonhomme assez hors du commun. Et lui, les Haramim vont nous expliquer que Caleb, il est allé prier sur la tombe des Avot. En d'autres termes, il est allé se ressourcer, s'inspirer de la démarche des Avot. Maintenant, ok, on va y revenir tout de suite. Et donc, Caleb, lui, il n'est pas avec eux. Mais eux ne le savent pas. Et donc, il a réussi à prendre la parole. S'il s'est dit Yoshua qui avait voulu parler, on ne l'aurait pas laissé parler. Bon, ils ne sont pas fous, ils n'allaient pas laisser parler Yoshua. Mais Caleb, il ne savait pas. Et il a commencé à prendre la parole, c'est marqué Vayahas Kalev et Aham. C'est-à-dire que le peuple est en train de gronder contre Moshe Rabbeinu, la révolte est en train de monter, et Kalev va prendre la parole. Alors il arrive à faire taire tout le monde. Alors il y a les Midrashim qui disent que il a commencé par dire est-ce que c'est seulement ça que Ben Abraham nous a fait? Donc les gens étaient sûrs qu'il allait commencer à taper sur Moshe. Et puis il va commencer à énumérer tout ce que Moshe Rabbeinu a fait de positif, qu'il a guidé les Bnei Israël, etc. Et puis du coup il a pu dire ce qu'il voulait dire. Donc, Vayomer Allah, Adapan Vayomer, et il a dit, Alona Ale, on peut monter en Israël, Yarash Nota, et on va pouvoir hériter de cette terre, et Yahon Nuchalla, nous pouvons la prendre. Et les gens qui sont montés avec lui ont dit Non nuchal la lot elam ki chazaku mimenu. Quand il a dit ça, les autres ont contré. Les 10 autres, ils ont dit le contraire. Toi tu dis qu'on pourra, nous on dit qu'on ne pourra pas. On ne pourra pas parce que maintenant ils vont rajouter un petit peu quelque chose. Donc nous ne pourrons pas parce qu'il y a ce peuple qui est plus fort que nous. Bon, c'est pas drôle d'argument en réalité. Parce que quand Amalek aussi, il aurait été plus fort que l'Ibn Israël. La preuve, c'est que quand Moshe baissait les bras, Amalek gagnait. Donc en termes de guerre simple, Amalek était plus fort. Et pourtant l'Ibn Israël a gagné la guerre contre Amalek. Ça veut dire, tu fais abstraction de ce que vous ne tenez pas compte du joker. Il y a Hachem. C'est la chaîne qui va guider la guerre. Alors, pour, en fait, Khazal ont entendu ce qu'ils disaient, pour que cela ait un sens, il fallait qu'ils aillent jusqu'au bout de ce qu'ils disaient. Vous voyez le mot mimeno? D'accord. Enlevez le point au milieu du vav. Et mettez ce point un tout petit peu plus haut. Et ce mimeno, on peut le lire mimeno. Non, ce qu'ils ont dit, c'est que le peuple est plus fort qu'Hachem. Plus fort que lui. Pas plus fort que nous. Mais plus fort que lui avec un L majuscule, si vous voulez. Pour ça, on a, dans le Sefer Torah, on n'a pas du tout besoin de changer quoi que ce soit. La graphie est la même. Mimeno ou mimeno, il n'y a pas les voyelles dans. Donc, mimeno. Même non-vav peut se lire aussi bien mimeno que mimeno. Donc c'est pas une... De ce point de vue-là, c'est pas vraiment un bouleversement. Il a été nécessaire. C'est bon, c'est une des lectures possibles de ce qu'ils ont dit. Et même quand on parle, mimeno, mimeno, c'est pas tellement différent. Surtout si c'est une foule qui parle. Et du coup, ils se sont mis, Vayotsi Udibat Haaretz, Asherta Uota, et Béné Israël. Et maintenant, du coup, ils ont sorti l'artillerie, là, tout à coup. Alors, ils vont maintenant dire du Lashon Hara sur la terre. Jusqu'à présent, ils n'avaient rien dit. Ils ont dit, la terre, elle est bonne, mais on n'y arrivera pas à cause du peuple. Le peuple est plus fort que nous, plus fort qu'Hachem. Et maintenant, ils vont dire du mal de la terre. Alors, ils vont dire, cette terre, Aretz Asher Amarnu Va, la Tourota, Aretz Ochelet Yosfea. Cette terre, c'est une terre qui mange les habitants. Kolam Asher Arinu Mitocha Anshem Midot. Et les gens qu'on a vus là-bas, c'est tous les gens qui sont surdimensionnés. Et on a vu là-bas les descendants des Néphilim, on a vu des descendants des géants, etc. Et à leurs yeux, on était... À nos yeux, on se sentait comme des sauterelles, alors, en leurs yeux. Et eux, ils nous voyaient comme des sauterelles. C'est-à-dire, ils avaient tout ça, des sauterelles dans les arbres. Et donc, tout le peuple a éclaté en sanglots. Ils ont pleuré pendant toute la nuit. Puis ils se sont révoltés contre Moshe, contre Aaron. Tous les Bnei Israël, ils ont dit contre Moshe, toute la communauté, enfin tout le clan, nous maintenant, si seulement on était mort en Égypte, on devient dans le désert. Mais pourquoi Hachem nous amène dans ce pays-là où nous mourions sous le glaive, que nos femmes et nos enfants soient prisonniers. C'est mieux, faisons demi-tour, retournons en Égypte. Et ils se sont dit les uns aux autres, et que, voilà, demi-tour, on retourne en Égypte. À ce moment-là, Moshe et Aaron sont tombés sur leur face. Il y a une manifestation en parlant et Joshua et Caleb étaient des explorateurs, ont déchiré leurs vêtements en signe de deuil et ils ont dit à tout le peuple, ils ont dit le pays dans lequel nous avons passé, nous avons exploré, c'est un bon pays, me'od, me'od. Dans le Torah quand on dit me'od, ça veut dire au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, me'od, me'od, c'est encore superbe, superbe, superbe. Si Rafes Banu Hachem, si Hachem veut de nous, et s'il nous amène vers ce pays-là, et qu'il nous le donne, ce pays-là qui est Zavat Khalaboudbach, peut nous donner, mais si surtout ne vous révoltez pas contre Hachem. Et n'ayez pas peur. Et ces gens-là, ils sont déjà complètement dans nos mains. Ils sont notre pain, c'est-à-dire, ils n'ont plus de Tselem Elohim. Hachem est avec nous, n'ayez pas peur. Et les gens ont voulu les lapider. Mais il y a eu une manifestation de la puissance de Kavod d'Hachem, et donc ça, bon, ça a bloqué les choses, et ensuite Hachem va leur donner leur punition en fait, et il va leur dire que, il va dire à Moshe, il y en a ras-le-bol, ils ne me font pas confiance, avec tout ce que je leur ai montré, ils ne font jamais confiance, ça fait déjà une dizaine de fois qu'ils me mettent sans rien à l'épreuve. Alors, laisse-moi, je vais les détruire par la peste. Et en fait, ils vont être déshérités en quelque sorte. Et je ferai de toi, Moshe, un grand peuple, puissant, beaucoup plus puissant que celui-ci. C'est Moshe Rabbeinu qui dit à Hachem, ah ouais, c'est super ton idée. Bon là, qu'est-ce que les Égyptiens vont dire? Ils vont dire que c'était parce qu'en fait, tu étais incapable d'amener les Bnei Israël en Eretz Israël, et tu les as tués. Donc il a dit à Hachem, tu fais un peu de Hachem si tu fais ça. Et du coup, Hachem a pardonné. Bon, c'est marqué dans le verset 20. Et Omer Hachem, c'est l'article qui devrait être. Je vais te pardonner comme tu l'as demandé, mais je jure, tous ces gens-là qui ont vu tout ce que j'ai manifesté en étant adultes, ils étaient adultes, en Égypte, au désert, etc., et qui m'ont déjà éprouvé chaque fois, une dizaine de fois, qui ne m'écoutent pas, je jure que ces gens-là ne verront pas, n'entreront pas dans la terre d'Israël. À l'exception donc de Caleb, et qu'il va être à roi à faire et Timon. Caleb, il avait un autre état d'esprit. Il m'a allé à Harai, il m'a suivi donc. Et je l'amènerai à la Haaretz, à Sherba, à Shama. Et sa descendance héritera de ce pays. Maintenant, c'est tout. Les Bnei Israël, ils vont partir de là. Ils partent de là. Mais bon, comme vous savez, ils vont pas complètement finir parce que les Bnei Israël, quand ils entendent de condamnation à mort, en réalité, ils disent, on y va. Hachem, il fait pas tard maintenant, c'est fini, vous pouvez pas y aller. Ils y vont quand même et ils se font massacrer. Voilà. Donc ça, vous connaissez. Alors, on peut s'interroger évidemment sur la question de savoir c'est quoi la faute des Meraglim? Est-ce que c'est vraiment leur faute? Ce qu'ils ont raconté à Moshe Rabbeinu, ce qu'ils ont vu, les fruits qu'ils ont amenés, effectivement, c'est des fruits qui étaient tout à fait extraordinaires. Et partout où ils ont passé, ils ont bien vu que les gens étaient occupés à enterrer leurs morts. Donc tout ça, c'est vrai. Ça sont des faits objectifs. Et l'explication qu'ils ont donné. Ça, c'est une explication qu'ils ont inventée. Ils ont interprété ce qu'ils ont vu. Ils ont mal vu. Ces choses-là, qu'ils ont vues, on pouvait les interpréter différemment. Ce que Hachem avait annoncé, c'est leur donner une possibilité de se tromper dans ce qu'ils ont. Que les faits objectifs sont susceptibles d'interprétations diverses. Et les ministres ont choisi les mauvaises interprétations. Et les Meraglim, et donc les ministres les ont suivis. Au lieu de voir ces fruits et de dire que c'est un chesed d'Hachem, le fait qu'ils ont pu passer inaperçus, mais ils ont, c'est extraordinaire, leur part. C'était même incompréhensible comme stratégie d'envoyer 12 personnes, 12 étrangers, et qui vont ensemble. C'est comme si j'avais porté un écriteau, nous sommes des espions, quasiment. C'est quoi ce truc-là? Comment ils ont pu passer inaperçus? Alors, en vérité, ils avaient raison. Partout où ils passaient, il y avait des enterrements. Une des façons de passer inaperçu, c'est d'être mêlé à des mélanges de populations qui ne se connaissent pas. Donc ça arrive dans les enterrements. Les enterrements, alors il y a des gens qui viennent de la famille de la famille, de la famille de famille, etc. Ils viennent dans d'autres endroits. Donc eux ont pu passer inaperçus là-bas parce que on les a peut-être pris pour des gens de la famille, etc. Donc ça veut dire que donner cette explication-là, évidemment, c'était pas facile. L'explication de dire que c'est un pays qui mange ses habitants parce qu'effectivement, partout où ils vont, ils trouvent que les gens meurent, là, on peut faire une théorie. La théorie, c'est la suivante, c'est un pays qui mange ses habitants, ça veut dire c'est un pays dans lequel tout est surdimensionné, mais ça dure très peu de temps. Quand les gens deviennent des géants, mais au lieu de vivre longtemps, ils vivent très peu longtemps. Si vous voulez, c'est comme si on regardait le produit de la durée par la hauteur des gens. Bon, on peut le déplacer, on peut dire vivre plus longtemps et être moins grand. Donc on peut interpréter ça comme un pays qui mange ses habitants, mais on pouvait aussi expliquer que c'était pour les protéger, mais évidemment, si ils interprétaient en disant que c'est pour les protéger, alors toutes leurs théories vont s'effondrer complètement, puisque vous voyez que même quand vous allez explorer, à part vous protège. Et il chamboule l'ordre du monde pour que vous passiez, passiez inaperçu. Bon, c'est presque incompréhensible. Donc ça serait, si même à ce moment-là, à part que vous vous protège de la sorte, alors vous pouvez pas dire que la chaîne vous aidera pas à conquérir la terre. Donc évidemment, ce qui se passe, c'est qu'ils ont vu ce qu'ils voulaient voir. Ça peut dire actuellement. Ils ont interprété ce qu'ils voyaient de la façon dont ils avaient envie d'interpréter. Et donc on peut, de la sorte, maintenant on peut se dire que, ça veut dire, on peut répondre à la fameuse question que je vous ai citée, le Kriyakar, qui demande pourquoi les Meraglim se sont présentés comme étant Motsie Dibata Aretz. Des gens qui disent de la Shonara sur la terre. Ils ont dit la vérité. Ils ont dit ce que leurs yeux ont vu. En fait, ce qui se passe, c'est que le Kriyakar, lui, répond qu'ils auraient dû interpréter tout ce qu'ils voyaient comme étant des manques. Ils auraient dû dire, ben, c'est la faute des... C'est la faute des habitants, ils se conduisent suffisamment mal pour être effectivement sanctionnés. Mais pas à dire que c'était une propriété de la terre. On va dire c'est une propriété, c'est quelque chose qui arrive parce que les habitants se conduisent mal. Alors on peut répondre, effectivement. Et c'est vrai que ils ont regardé les choses, ils ont vu, mais en fait, ils les ont vus avec leur cœur, en fait. Tout ça, c'est parce qu'ils voulaient absolument voir des manques dans cette terre pour ne pas y aller. Pour ne pas entrer là. Donc ça, c'est une des explications qu'il faut donner ici. sur leur démarche. Maintenant, ils se sont trompés, c'est vrai, ils se sont trompés les Maraglim. Dans le Zohar, on dit la chose suivante. En fait, c'est vrai qu'ils étaient, au moment où ils ont été désignés, ils étaient Kshérim. Mais dès qu'ils sont entrés en Eretz Israël, en fait, ils ont perdu le degré qui leur permettait d'être des chefs de tribu. Parce que un chef de tribu, enfin, de façon générale, quelqu'un veut diriger, son but c'est de diriger réellement les gens qui sont sous sa coupe ou sous sa direction. Il faut leur faire faire des choses qui leur correspondent et qui correspondent à la période dans laquelle ils vivent. C'est-à-dire qu'en réalité, il fallait tenir compte du chemin spirituel que cette génération était en train de suivre. Et par conséquent, on ne peut pas se tromper sur le chemin en réalité. Parce que, en fait, ce qu'il faut montrer, c'est qu'il faut les aider à aller sur ce chemin, parce que ce chemin, c'est le chemin que Hachem leur a donné. Et eux, ils n'avaient pas confiance, si vous voulez, ils se sentaient plus les chefs. Ils ne se sentaient pas capables de diriger dans cette situation-là. Tout le monde comprend que dans cette génération du désert, il fallait on voulait les amener jusqu'à Eretz Israël, jusqu'à la construction du Beth Amigdash, etc. Mais en fait, leur séjour dans le désert, c'est comme si la période du désert, pour eux, c'est un grand bétamidrash. Midrash, un lieu d'étude. C'est un lieu dans lequel ils sont guidés de façon extraordinaire, de façon miraculeuse. Ils mangent la manne, dont l'eau du puits de Myriam, etc. Ils sont protégés par les nuées d'Hachem. Bien entendu, le but de l'exercice, c'est de les amener à une situation différente, situation d'Eretz Israël, qui est caractérisée, on dit tout de suite, quand vous allez arriver dans le pays d'Israël, vous plantez des arbres, pour tout de suite commencer à travailler. Donc, un chef de génération, dans cette génération-là, un chef, ça doit être absolument clair pour lui que les Bnei Israël, qui doivent être Mamlechet Kohanim Bebri Kadosh, qu'il faut les guider pour qu'ils puissent y arriver. Et quand ils sont entrés, quand les Maraglim sont entrés en Eretz Israël, le roi HaKodesh, qui les accompagnait toujours, ont compris qu'il y avait comme une espèce de changement de garde. C'est plus ça. Ils se sont rendus compte que, enfin, ils ont ressenti que nécessairement, maintenant que, voilà, ils vont entrer dans le pays où les Israéliens ne sont plus nourris par la manne. Ils ne sont pas plus protégés par la Nekabot. Donc, ça veut dire, ils vont être occupés par planter des arbres, enfin, c'est-à-dire, ils vont falloir travailler, faire des efforts, c'est-à-dire vivre en faisant vivre la terre en question.
Et par conséquent, les Bnei Israël vont perdre un petit peu de cette singularité spirituelle qu'ils avaient dans le désert. Donc, ils vont devoir vivre un peu plus normalement, si on peut parler comme ça, plus proche de la matière. Ces Nessim, ces princes-là, eux, ils sont complètement adéquats dans le Beth Amidrash du désert, puisqu'ils ont été nommés les chefs. D'accord, ce sont les chefs des personnes capables de diriger dans le désert, dans la période du désert. Mais il aurait été clair qu'ils n'allaient pas pouvoir continuer de diriger dans cette toute nouvelle situation, ils vont pas indiquer donner les bonnes directions. Parce que c'est tout à fait d'autres qualités qu'il fallait, et dans le Beth Amidrash que sera Eretz Israël, dans ce Beth Amidrash, on va enseigner d'autres choses, on va apprendre d'autres choses. Et donc, là-dedans, eux seraient des élèves moyens, peut-être, dans ce Beth Amidrash, ils seraient pas du tout les maîtres. Donc maintenant, on peut essayer de comprendre leur démarche. Comprendre ne veut pas dire excuser pour l'instant, mais c'est évident que le fait de perdre leur statut de chef au sens des pâquerettes, si vous voulez pas perdre le pouvoir, si vous voulez. C'est peut-être pas comme ça qu'il faut interpréter les choses. Bien qu'on puisse le lire aussi à ce niveau-là. Ici, ce qui se passait, c'était un problème de chute spirituelle, en fait. C'était clair qu'il va y avoir une dégringolade. Les gens vont pas se consacrer uniquement à l'étude. C'était leur travail durant le désert. Il va falloir labourer, semer, récolter, etc. Et la protection des... Il va falloir se protéger d'une autre manière, être protégé d'une autre manière. Il n'y aura plus l'année Nekavot, pas les nuées d'Ogora, en fait. Donc, ils vont s'occuper des choses matérielles. Donc, eux ont pensé, c'est les Sim, ont pensé, que... En Eretz Israël, la vie spirituelle, elle va être, en quelque sorte, elle va presque reposer sur le... Il faut planter des arbres. C'est-à-dire, il faut semer, il faut travailler. Et donc, la Mamlechet Kohanim, Vevoy Kadosh du Midbar, du désert, elle va devoir se transformer un peuple qui ressemblerait beaucoup aux autres peuples. C'est-à-dire une assemblée de gens qui sont complètement enfoncés dans le matériel. Plus du tout libre. Aussi libre que on voudrait pour les questions spirituelles. Donc ce qui les a amenés à penser que lorsqu'ils vont entrer en Eretz Israël, eux ne seraient plus capables d'être les Nessim, d'être les princes. C'est ce qui les a poussés à penser que les Bnei Israël vont dégringoler. Et qu'ils étaient maintenant, avant d'entrer en Eretz Israël, à un haut niveau, que ils allaient perdre tout ça. Et donc, dans leur tête, ils se sont dit, les Bnei Israël, il faut qu'ils restent dans le désert. Donc il reste dans le Beit HaMidrash du désert. On peut se consacrer uniquement aux questions spirituelles. En vérité, c'est faux. Alors là, c'est une erreur. Même une grosse erreur. Parce que, en vérité, ce ne sont pas deux façons complètement distinctes de diriger. C'est-à-dire que le diriger la fédération du désert ne contredit pas diriger la génération qui va entrer en Eretz Israël. Au contraire, le Beit HaMidrash du désert est une préparation nécessaire, obligatoire, pour pouvoir entrer en Eretz Israël. C'est sûr que on ne peut pas se consacrer au travail spirituel tout en travaillant la terre, en quelque sorte, si on n'a pas auparavant bénéficié d'un ancrage spirituel. C'est ça le travail qui s'est fait, qui devait se faire dans le désert. Et ça, c'est la Torah du désert. Et donc, dans le désert, on peut dire, les Bnei Israël ont été éduqués pour la tâche qui sera la leur, la tâche très importante, qui sera la leur, une tâche plus lourde, plus difficile. Mais qu'on ne peut pas, à la limite, ne pouvait pas être réalisé s'il n'y avait pas eu préalablement l'éducation préalable, justement. Et donc, tout ce que Sénessim avait fait, c'est en réalité, il s'en rendait pas compte, peut-être, mais c'était une préparation. Et par conséquent, il pouvait continuer peut-être, probablement, si on considère que c'était une erreur de leur part, et bien qu'en réalité, ils auraient très bien pu continuer à viser le spirituel, mais bon, il faudra adapter les choses, parce que il faudra lire dans la Torah comment on fait avec l'enseignement de la Midrash du désert, comment on fait pour faire face au problème. Dans le désert, ils ont étudié plein de choses qui dans le désert n'avaient pas lieu d'être. Ils ont étudié la halakhot, il n'y avait pas de commerce dans le désert, réellement, il n'y avait pas vraiment de commerce, il n'y avait pas de... Une grande partie des lois qu'ils ont étudiées dans le Beit HaMidrash du désert n'étaient pas applicables. Il fallait les avoir appliquées, les avoir étudiées, pour pouvoir les appliquer en son temps. Quand les Bnei Israël sont arrivés en Eretz Israël, je parle de l'époque contemporaine, les Bnei Israël avaient des problèmes, c'est que on avait perdu complètement le contact avec le travail de la terre d'Israël. Donc toutes les lois sont liées à la terre d'Eretz Israël. On ne savait pas très bien comment il fallait les appliquer. Jusqu'au moment où on s'est aperçu qu'il y avait un juif, il y a Vilna, bien avant que les gens s'installent vraiment de façon importante en Eretz Israël, avait déjà non seulement étudié, mais il avait même publié. Le juif s'appelait Chazon Ish. Chazon Ish, il avait déjà publié des volumes entiers sur les lois. Des lois liées avec la terre d'Israël. Et au début, on n'avait que lui. Après, les gens ont étudié, d'autres ont d'autres opinions, etc., construit, mais au début, on n'avait que lui. Mais lui, il avait tout vu. Les Israéliens sont arrivés, et où sont les livres dans lesquels, où il est le Shulchan Aruch pour tout ça, il n'y en avait pas. Quelqu'un a dit, mais il y avait un juif à Vilna, il avait déjà publié à Vilna. Krasnovich, dans ses jeunes années, il avait déjà écrit tout ça. C'est la même chose dans le Beth Midrash du désert. On avait déjà écrit tout ce qu'il fallait savoir pour pouvoir expliquer tout ce qu'il fallait savoir pour être en, pour vivre en Eretz Israël, avec toujours le projet d'être Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh. Comme cette étude était faite en vue d'eux, ben eux, même s'ils ne savaient pas, ils étaient en train de travailler en vue d'eux. Donc ils étaient pas complètement, c'était pas impossible qu'ils restent les chefs. Peut-être qu'ils n'allaient pas perdre la preuve, c'est Yoshua. Yoshua était bien chef de tribu en Koutslaaretz. Et il est resté, non seulement il est resté chef de tribu, mais il est devenu le chef du peuple juif entier en Eretz Israël. Si il n'avait pas les, si quand on était adéquat pour le Beth Midrash du désert, on n'était pas pour le Beth Midrash d'Eretz Israël, Yoshua n'aurait pas pu jouer son rôle. On aurait dû prendre je ne sais pas qui d'ailleurs. Bon, qui est-ce qui aurait pu diriger les Bnei Israël, si ce n'est quelqu'un qui était parmi eux jusqu'alors. Donc il n'y avait que des gens qui connaissaient seulement le Tamidrash du désert. Donc déjà comme ça, il fallait se demander, mais ok, si c'est pas nous, ce sera qui? Disons, personne n'aura d'expérience. Nous, on a une certaine expérience. Alors même à penser que bon, ça sera différent, etc., mais parce que quelqu'un d'autre sera plus qualifié que nous. Mais c'était pas par. En fait, ils ont senti que non, c'est une erreur. Ça veut dire que, qu'est-ce que ça, pourquoi ils se sont trompés finalement? On se demandait pourquoi ils se sont trompés. Ils se sont trompés parce qu'Hachem avait dit qu'il y avait une possibilité de se tromper. C'est-à-dire, ils se sont trompés, grossièrement, si on peut parler comme ça. Donc c'est une façon de dire qu'en réalité, leur erreur, c'était une erreur du type grossier, si on veut. Alors pourquoi a fait que ils ont mal vu, ils ont eu tellement peur de perdre leur... ils ont pensé, oui, ça sera complètement différent, donc ils n'ont pas pensé que ce qu'ils faisaient, eux, en réalité, c'était une éducation pour pouvoir vivre en Eretz Israël selon les principes de la Torah et que par conséquent, ils étaient éventuellement aussi qualifiés. La preuve, ce sera Yeshua. On va aller regarder à la fin de la parasha, tout à la fin de la parasha de Shlach. C'est le troisième paragraphe du schéma, il parle des tzitzit. Il parle de la mitzvah de tzitzit, c'est la mitzvah de faire des franges, comme ça qu'on dit, faire des tzitzit, disons, aux quatre coins d'un vêtement à quatre coins. Donc sur cette mitzvah, là, il est dit, voilà, vous allez faire ça, vous réitez moto, vous verrez, parce que parmi les fils que vous allez mettre dans les quatre coins, il y aura un fil de laine, teinte, très nette, teinte, on dit azur, et quand vous verrez ce fil-là, vous allez vous souvenir de toutes les mitzvot de la Torah, et vous allez les pratiquer, et ça c'est important ici, vous ne vous laisserez pas guider par vos cœurs et par vos yeux qui vous égarent en réalité. Tout ça c'est pour que vous vous souveniez et que vous pratiquiez les mitzvot et que vous deveniez saint pour votre Dieu. Ani Hashem Elokechem, etc., qui vous est sorti de Mitzrayim, etc. Alors, cette mitzvah de Tzitzit à la fin de la paracha, ici, elle demande une explication en quelque sorte. Qu'est-ce que ça a à voir avec tout à coup ce que notre sujet en fait? Il y a un lien en réalité entre la mitzvah de Tzitzit et les meraglim, les explorateurs. Rashi dit sur le passion que je vous ai lu là, Lotatou Achel Vafrem Vachel Echem. Donc vous ne laisserez pas entraîner par vos cœurs et vos yeux. Rashi dit le mot tatou, Rashi dit que mon mitour arrête comme explorer la terre. Donc à tout, c'est-à-dire vous n'allez pas vous laisser devenir des explorateurs des alentours en quelque sorte, guidés par vos cœurs et vos yeux. Pourquoi dit Rashi? Alev ve'ainaim em meraglim la gouf. Le cœur et les yeux sont des explorateurs au service du corps. Et ils sont des intermédiaires entre le corps et les avérotes et les fautes. L'œil voit, le cœur désire, et le corps fait les fautes. Le Rashi, on voit, il y a donc un lien entre la parasha de cette parasha de Tzitzit et la parasha des Meraglim. Donc entre le début et la fin de la parasha. Certains expliquent effectivement que la mitzvah de Tzitzit, elle vient réparer en fait les fautes des Bnei Israël quand ils se sont laissés entraîner par les Meraglim, par les explorateurs, puisque de cette mitzvah de Tzitzit, on apprend qu'il ne faut pas se laisser entraîner par les Meraglim, qui eux nous incitent à la faute. Et comme Rashi l'a dit, le cœur et les yeux sont des explorateurs, comme si, voilà, ils balayent les yeux balayent l'environ pour chercher des avérotes. Alors, il faudrait peut-être ajouter la chose suivante. La mitzvah de Tzitzit, elle ne vient pas seulement arranger le barré, en quelque sorte, la faute des Bnei Israël, la faute elle-même, c'est pas un tikkun, si vous voulez, de la faute en elle-même, mais d'une certaine manière, elle vient faire disparaître complètement la raison de la faute des Meraglim. Si vous voulez, si la faute des Meraglim, si on la répare, et si la raison de la faute des Meraglim est toujours là dans le cas d'Israël, on va pourtant se casser la figure du même ordre. Déjà, ce ne sera jamais fini, cette histoire. Donc, ce qui est important, c'est qu'on nous donne les moyens d'éradiquer les raisons qui mènent, qui ont mené à cette faute des Meraglim, mais de telle sorte que ces raisons n'existent plus, on ne fasse pas la faute. Donc, si les Bnei Israël avaient, à ce moment-là, s'ils avaient appliqué la mitzvah de Tzitzit dans sa totalité, de façon parfaite, ça veut dire qu'ils ne seraient pas restés à la figure. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, il y a une question que pose le Hansher, dans le grand kabbaliste de l'époque, l'Arizal et aussi le Rokeach. Dans le pasuk, c'est marqué le tatour ou acharei le vafrem vacharei lechem. C'est à l'envers. On pourrait lui dire, l'otatou acharet enechem v'acharet levatrem. Ne suivez pas vos yeux, c'est les yeux d'abord qui voient, et ensuite le cœur. Bon, c'est les yeux qui vont nous produire des choses à désirer, par exemple. Et le cœur va les désirer. On peut dire que l'œil voit en premier. Sauf qu'en réalité, il ne voit que ce que le cœur voulait qu'il voit. Et on ne voit que ce qu'on veut voir. On dit le Baal Shem Tov, effectivement, quand quelqu'un voit quelque chose, il ne faut pas qu'il se raconte des histoires. J'ai vu par hasard quelque chose que je n'aurais pas dû voir. Si tu l'as vu, c'est que tu voulais le voir. Et les psychiques vont dire la même chose. Le Baal Shem, il avait ça, et c'est ici le... C'est ça l'idée, en fait. C'est en fait le cœur qui guide tout ça. C'est-à-dire, c'est le cœur qui dit comment il faut voir. Et c'est aussi le cœur qui reçoit l'information des yeux et qui l'interprète comme il veut. Par le cœur, j'entends ce qui est là, hein, c'est pas le cœur, c'est pas la trompe. C'est là. Dans la Gemara, on dit effectivement, tout ce que l'explique, ça veut dire que ce qu'on voit dépend de ce que le cœur veut voir. Donc c'est vrai que l'œil voit, enfin l'homme voit, si vous voulez, des choses, des événements, mais néanmoins, la façon dont il voit les choses, elle dépend de son cœur. De telle sorte que deux personnes peuvent voir exactement la même chose, mais ils voient deux choses. Tout en étant absolument sincères, ils vont raconter, ayant vu la même chose, ils vont raconter deux histoires complètement différentes. Et peut-être le même homme, la même femme, dans d'autres circonstances, ils verront la même chose et ils en feront un récit complètement différent. Donc, en fait, dans la mitzvah de Tzitzit, il y a deux choses. Premièrement, c'est marqué « Le ma'an tizkru » afin que vous vous souveniez que l'homme doit se souvenir de toutes ses obligations de mitzvot, mitzvot positives, mitzvot négatives. Et deuxièmement, l'otatour achel bachel bachel echem. Ne vous laissez pas entraîner par votre cœur et vos yeux, parce que les tzitzites sont là pour redresser, pour diriger dans la bonne direction, en fait, le cœur. Jusqu'à ce que l'homme regarde les choses qu'il doit voir et pas les choses qu'il ne doit pas voir. C'est ce que les Chazal disent. Ils le disent de manière suivante. Areshaim aime Bukshut Liban. Tzadikim Liban Bukshutam. Les Areshaim, ils sont au pouvoir de leur cœur. Leur cœur, c'est lui qui décide. Donc, en fonction de leurs envies, tout va se dérouler d'après ça. Les tzadikim, ils sont maîtres, justement, de leur cœur. Ils sont au-dessus de ce qui va diriger le regard, diriger l'audition, etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les choses dépendent du cœur. Et si l'homme n'est pas maître de son cœur, en quelque sorte. Alors, tout ce qu'il va voir, ben, peut être en fait interprété et va servir à faire des fautes, et ne sera pas au service de la Kedusha. C'est pour ça qu'il est dit d'abord Aharei Levatchem d'abord et ensuite Aharei Lechem. Donc quand on voit quelque chose, il faut pas se laisser entraîner, il faut savoir que voilà, j'ai vu cette chose-là parce que j'avais envie de la voir et donc il faut continuer de rester aussi critique que possible par rapport à cela. Certains interprètent que c'est ça la faute des meraglim. Il y a beaucoup d'interprétations, mais en fait, ils ont toujours des points communs, même si elles s'expriment un peu différemment. Voilà, c'est que eux, ils ont vu, et on sait qu'ils ont raconté à Moshe et au Bnei Israël des choses qui, effectivement, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils n'ont pas menti. On a vu ça. Les fruits, effectivement, les fruits qui sortaient de l'ordinaire, ils les ont vraiment vus, ils les ont amenés. Et les enterrements partout, il y en avait effectivement partout. C'est vrai. Mais, en fait, ils auraient pu interpréter ça, tout ça différemment. Ils auraient pu dire, effectivement, ces fruits extraordinaires, ça c'est le fruit de Chesed d'Hachem. Le fait qu'ils ont pu passer, même si les autres les ont pris pour les sauterelles, tant mieux, ça leur a permis de passer inaperçus. Mais eux, ils ont décidé de voir le côté négatif qui leur permettrait de dire que la terre est une terre qui mange ses habitants. La vérité, c'est que peut-être que c'est même plus facile de dire que c'est une terre qui mange les habitants que de dire que voilà, les gens sont morts à cause de nous pour que nous passions inaperçus. Or, c'est quoi? C'est la mégalogie, c'est-à-dire quoi? Les gens vont mourir pour que nous passions inaperçus. Oui, à cause de l'Europe, on peut faire des choses comme ça pour le clan Israël. En soi, c'est une chose qui mérite réflexion. Donc on peut expliquer la fameuse question que je vous ai dit, le cri Yakar, pourquoi on les appelle Motsi et Dibata Aretz, pourtant ils ont dit la vérité. Mais en fait, tout ce qu'ils ont vu, c'était du Sheker en réalité. C'est ce que leur cœur leur disait de voir. Et ça n'était qu'une interprétation parmi d'autres. Mais c'était une interprétation qu'il aurait fallu passer au crible, une critique du pourquoi est-ce que j'ai envie de voir ça. Il y avait une autre explication possible. Elle est peut-être plus tirée par les cheveux, mais elle existe. Donc en fait, ils sont motziés dibata aretz parce qu'ils ont décidé de dire du mal de la terre, mais c'était déjà leur décision. Tikkun, l'arrangement, comme on dit, de cette faute que fait la mitzvah de Tzitzit, c'est-à-dire que désormais, grâce à cette mitzvah, on va savoir comment regarder, faire attention de bien regarder, et on va refuser le mal, etc. Ça veut dire que, et en réalité, donc c'est ça le tikkun de la faute elle-même. Avec ça, on comprend que la faute des Maraglim, elle n'a pas commencé quand ils ont raconté les choses à Moshe et au peuple. Elle n'a même pas commencé, comme Rashi l'a dit, Bayelchou, c'est-à-dire qu'ils sont déjà le chemin pour aller chez Moshe, était déjà fait dans la même optique que celle qu'ils auront quand ils vont dire du mal. Non, la faute, elle a commencé dans la façon dont ils ont regardé les choses. Ils avaient décidé de voir. Par conséquent, tout ce qu'ils ont vu, ils l'ont interprété de cette manière-là. Parce qu'ils pensaient qu'ils allaient perdre leur statut de prince, de chef. Donc c'était, bon, appelle les médias, ça veut dire qu'ils n'étaient pas objectifs dans leur regard. Ça veut dire, et là on peut se rendre compte que même des gens énormes, et c'était les chefs, c'était les tzadikim, etc., choisis par Hachem, d'accord, une média, c'est-à-dire à partir du moment où tu es intéressé, de personne ne sort indemne d'une média. Il faut savoir que si on a une média, si quelque chose nous touche particulièrement, donc il va déformer notre regard, il faut être très 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 vigilant. Donc, eux, ils ont fait les choses comme ils le voulaient. Et avec ça, on peut comprendre la question, je me lève ici, je vais poser la question, penserait-il que les Bnei Israël ont été sanctionnés pour la faute des Meraglim, marqué de Mispar Yamim, Asher Tarte Metaharez, Arbaim Yom, Yom Lashana, Yom Lashana, Isu et Avonotechem. Les Bnei Israël ont été punis, de quelle manière? Je m'a dit, chaque jour de l'exploration correspond à une année de tourner en rond. Ça va durer 40 ans. Vous avez 40 jours d'exploration et 40 jours, 40 ans, pardon, de tourner en rond pendant lequel la génération en question va mourir. Après, on doit comprendre, mais les Meraglim, ils ont fait une faute quand ils ont raconté ce qu'ils ont raconté à Moshe Rabbeinu. Pourquoi 40 ans? Avec ce qu'on vient de voir, on comprend pourquoi 40 ans. 40 jours. Parce que tous les jours étaient les jours durant lesquels ils ont vu les choses de façon tordue. Leur faute, c'était effectivement non pas ce qu'ils ont raconté, c'était déjà au moment, et c'est ça l'idée d'un complot. Et on décide de le voir de cette manière-là. Se répondre à une question qui est beaucoup de monde. Vous savez que quand les Israël allaient commencer la conquête d'Eretz Israël, le choix envoyait des explorateurs. Ils envoyaient deux explorateurs. Alors, on a du mal à comprendre. Vu ce qui s'est passé quand on a envoyé des explorateurs, comment est-ce que le choix peut envoyer des explorateurs? Mais en fait, c'est Maglim que Yoshua a envoyé. Quand ils sont revenus, et en vérité, ils sont pratiquement pas entrés, parce que au fond, ils sont arrivés à Yericho et ils ont dû se cacher. Ils ont été cachés par aubergistes, prostituées, etc. Rapaz, et ils ont rien vu, hein. Ils sont pas dépassés les murailles de la ville, parce qu'elle habitait dans les murailles de la ville, on peut les attacher là-bas. Comme explorateurs, ils étaient pas terribles, quoi. Ils ont même pas franchi complètement la muraille de Yericho. Mais, ils reviennent chez Yoshua, et ils disent, Natan Hashem yadeinu et kol haaretz. Pourquoi? Parce que eux, ils étaient prêts à croire. Hachem avait dit qu'ils allaient conquérir. Hachem et Moshe avaient dit, comment est-ce que la terre leur serait donnée? Donc quand ils ont entendu, ils ont vu ce que leur a dit Rachav, ils leur a dit qu'on a déjà, on est tous paniqués déjà. Alors il suffit, ils l'ont cru. Témoignage de qui? Une prostituée. Ils ont ramené le témoignage d'une prostituée. Donc, pour leur, leur échantillon de la population, ils ont fait un sondage. Ils ont interrogé une personne, prostituée de service, et c'est ça le rapport qu'ils ont fait, ce rapport d'exploration. C'est-à-dire qu'en réalité, ils sont entrés, ils savaient, ils sont allés vérifier quelque chose. Ils ont entendu qu'effectivement, juste elle qui connaissait la population, évidemment, elle savait que l'état d'esprit des gens, elle les a confirmés dans ce qu'ils savaient, donc ils sont revenus. C'est exactement ce que Hachem nous avait promis, comme Moshe Rabbeinu avait annoncé. Donc ils l'ont dit à Yoshua et l'affaire était faite. Donc ici, c'est ça la leçon en quelque sorte des Moralim, c'est qu'en vérité, il faut apprendre à voir. Apprendre à voir, c'est-à-dire savoir qu'on voit de toute manière, de façon objective, évidemment. Et il faut être critique de ce qu'on voit. Ça, c'est... Bien entendu, on sait très bien qu'on voit différemment quand vous regardez, quand vous voyez ce que voit un photographe quand, un professionnel quand il regarde. Vous voyez bien qu'on ne voit pas la moitié de ce qu'il voit. On ne voit pas ce qu'il voit. Un peintre voit des choses que nous ne voyons pas obligatoirement. Même si on se donne de la peine, on ne voit pas. Il faut savoir voir. Pour regarder. Vous vous promenez en montagne, avec des gens qui s'y connaissent, et là, ici, il y a un chamois, ici, une marmotte, là, vous regardez, vous ne voyez rien du tout. Parce que vous ne savez pas voir. Il faut savoir voir. Et donc, savoir voir, ça veut dire qu'il faut... tous les sens du mot savoir voir. Moi, je vous parle de... On voit ou on ne voit pas avec les yeux, c'est avec le lutin. Mais c'est aussi savoir voir, pour voir et l'interpréter de la bonne manière. Qu'est-ce que je suis en train de voir? De quoi il s'agit en réalité? Qu'est-ce qu'on est en train de nous... On est en train de me donner comme message. Voilà. On va s'arrêter là. Peut-être une bonne semaine, bonne deuxième moitié de semaine.
Merci beaucoup, Tira. Merci beaucoup.
Chaleur, merci.
Merci beaucoup. Merci,
Chaleur.
Non, Annie est...
Elle aurait pu être là quand même.
Oui, elle avait dit qu'elle essaierait...